Thomas, donc je tiens déjà à te féliciter aussi pour ce beau parcours aussi qui doit être rempli de souvenirs, peut-être au mot aussi qui peut-être arrive à la fin, je ne sais pas, ou peut-être qui est en réflexion. Donc d'ici là, peut-être on en saura plus, mais n'hésitez pas à venir les rencontrer, que ce soit au mois de mars à l'occasion de la journée des femmes, mais aussi pendant la période du Ramadan, du Carême, et aussi à l'occasion de leur assemblée générale. Vous aurez tout sur leurs réseaux sociaux. Thomas Oumou, merci. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de la radio HDR et de nous avoir parlé de laser. N'hésitez pas à les soutenir. Allez-y, laissez un petit abonnement aussi. Ça fait toujours plaisir de pouvoir être abonné, de laisser un petit like aussi sur des publications. Ça donne de la force et aussi un peu de fierté aussi. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et quant à nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission Ici Londres de 17h à 18h. Restez connectés et restez branchés sur les ondes de HDR avec l'émission Les Années Jazz avec Jules. Et puis dans la soirée, vous allez retrouver Romain pour l'émission Cafro, où là ce sera la danse qui sera en rendez-vous, la musique au rendez-vous. Donc restez à l'écoute du 99.1, et puis nous on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Ici Londres. Agréable soirée. Et merci.
Il est scandaleux, vous ne puissiez pas l'entendre plus tôt.
Ah, mais bien d'accord.
Le mix des cultures.
99.
HDR.
HDR
de l'après-midi.
Il est 18h.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Des documentaires sonores francophones. Indépendant.
Par les montagnes et les mers, avec Promis de cordée de Marie-Noël Battaglia et Paul Chailloux, suivi de La sardine et le loup de mer de Nicolas François.
Ça, c'est beau, hein ?
Ouais, c'est beau.
Et juste avec la lune, en fait, on y va super bien.
C'est un bon moment, le lever du jour, parce que c'est souvent, t'as pas encore attaqué vraiment les difficultés, ou alors, bon, c'est souvent un très très bon moment. Ouais. D'un seul coup, tu vois toute cette beauté qui est là, t'as fait tout un chemin, tu sais pas trop où t'es, parce que c'est vachement difficile, finalement. Tu pars de nuit, tu vas faire un truc, et si tu vas faire une montagne qui est dans les autres montagnes, il fait nuit, quoi. Donc des fois, tu peux te gourer, hein, parce qu'il y a pas de traces, il y a pas de... Tu marches un peu à l'instinct, quoi. Ta vie se limite à ta frontale, là. C'est un petit peu réduit comme truc.
Et donc là-haut, c'est quoi ? C'est à 2000, là ?
2050. Premier belvédère de la vallée d'Ossau. On devrait avoir une jolie vue sur les gabizots, la moulatte, le pic du midi d'Ossau. On devrait le faire.
Et on est à combien, là ?
On est à moins de 1000 mètres. 1100. 900 mètres de dénivelé. Ah, c'est bon, vous avez la caisse.
Ça va.
Mon père, à l'époque, était président du club alpin quand j'étais petit. Donc, chez moi venaient les grands alpinistes de l'époque. Donc, il venait Gaston Rébuffat, il venait dormir à la maison, manger à la maison, Lionel Thierry, René de Maison. Moi, j'étais tout minot, quoi. Je voyais ces bonhommes, j'étais impressionné, je les écoutais parler. Et ce qu'il disait, tout ça, ça me touchait plus qu'à la limite que la pratique, quoi. Je trouvais que c'était des sacrés bonhommes, quoi.
Là, nous y voilà.
On a bien monté, hein ?
Ouais, ouais. Ben, on a déjà fait 700 mètres de dénivelé. Toujours le crampon droit.
comme je n'ai pas voulu faire guide, j'ai organisé ma vie pour pouvoir faire de la montagne. Donc j'ai fait des petits boulots, des petits ci, des petits... Enfin, j'ai fait tout un tas de choses. Mais je me suis débrouillé pour avoir être un peu libre quand il fallait être libre. Pour obligatoirement le week-end, parce que si la montagne a décidé que le week-end, il ferait pas beau, c'est elle qui commande, quoi. Je vais paraphraser Rébuffat, hein, qui dit il y a l'aiguille du midi, on y va en téléphérique. Donc les gens, ils montent dans le téléphérique, ils arrivent là-haut, waouh, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Il dit oui, mais si tu vas par tes propres moyens, que tu marches pendant des heures, que tu as vécu un moment où tu as transpiré, où tu as eu des doutes, où tu dis mais j'y arriverai pas, puis si, ça y est, je vais y arriver, puis merde, non, si, oui, et puis c'est trop beau, puis tout est beau, et c'est beaucoup plus beau. Et pourquoi, dis, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment comme ça, quoi.
Et bon, j'ai vu. Aïe. Petit câblé dans la fissure. Voilà. Là. Et on teste le câblé. Génial, ça tient.
Ok, relais, tu peux venir.
Je pense que la cordée, c'est une histoire de confiance, voilà. Si tu pars avec quelqu'un et que tu sens pas, t'es pas un premier de cordée, t'es un premier de cordée de merde, et la cordée, c'est de la merde aussi, quoi. Quand t'es avec un second de cordée, au contraire, il te fait même faire des prouesses, parce que tu te sens bien avec lui, tu sais qu'il sait faire, qu'il fait ce qu'il faut quand il faut, t'as même pas besoin d'en parler, donc t'y vas, quoi. Que si t'es avec quelqu'un, tu sais pas comment il va t'assurer, tu sais pas s'il va te lâcher la corde quand t'en vas en avoir besoin, parce que toi... Il va te faire tomber, quoi. Donc je pense que c'est un tout, quoi.
Et viens ici et tu vas t'accrocher sur le relais. Un petit câble. Merde, hop, c'est bon.
Tu dois avoir le frame et le câblé.
Tu auras un tout petit mousqueton,
j'en ai plein.
Je reprendrai la dégaine sans.
Super. Et on fait pareil, dans la cordée, je repars. Et tu m'assures, tu vérifies que la corde elle défile bien, qu'il n'y ait pas de nœud. Et quand je serai arrivé en haut, je fais mon relais. Et quand je dis relais, c'est-à-dire que toi, t'es pris en sécurité en haut, donc tu peux te détacher de la sécurité d'en bas et partir.
Comme moi, je fais ça depuis longtemps, je suis arrivé à une période dans l'alpinisme, il fallait vraiment en vouloir parce que c'était très médiatisé du style de maison, c'est le mec, c'était toujours morbide. Tout le monde était mort, c'était deux maisons qui sortaient vivants du truc, quoi. Celui qui arrivait au sommet, c'était presque le survivant, quoi. J'exagère presque pas. Hein. Le premier de cordée, il avait rien, l'autre, il était lévi. Puis je l'ai, on l'amputait, on lui coupait les ongles, les doigts, les pieds, les machins. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? En fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Ouais. Je pense qu'une cordée, c'est une réussite, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire, quand on arrive au sommet, enfin, il y a... On se fait la bise.
Allez, tape bien.
Attends, faut que j'arrive à...
Vas-y, prends ton temps. C'est normal, faut que la corde soit bien tendue. C'est notre sécurité. Corde tendue égale sécurité.
Ok, et là, faut que j'arrive à monter mes pieds, c'est assez haut.
Ouais, prends ton temps, vas-y, c'est tendu, c'est bon. Sur mes piolets qui tiennent.
Ouf,
ça voilà va. Tu la sens la motte de terre gelée, ça tient. Donc bien tes pointes avant de crampon. Pas sur le côté, sur les pointes avant.
Ouais.
Voilà. Et du coup, voilà, toute ta sécurité, c'est ton plan tes piolets. Qu'il soit vraiment bien.
Bien. C'est bon.
Nickel.
Et bon, effectivement, moi aussi, j'ai bien aimé chercher le toujours plus aussi, quoi. Mais après, c'est un peu une drogue aussi, il faut faire attention. C'est vrai qu'arrive un moment, j'ai vécu des trucs où tu t'en fous de mourir, quoi. Tu dis, moi, enfin, presque, et là, je pense que ce serait pas très bien, ça, quoi. Je veux dire, c'est plus, le plaisir, il est où, là? Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fous, là, quoi? Genre, c'est de la glace, machin, je peux plus faire demi-tour. J'en peux plus, c'est pas les bonnes conditions, je suis con, j'ai voulu me prendre pour je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que je fous là, espèce de petit con, à faire des trucs à ton niveau, retourne chez ta mère, que tu t'as rien à faire ici, c'est pas pour toi. Ça m'est arrivé, oui, oui, ça m'est arrivé, je souhaite pas que ça arrive, c'est pas une fierté, quoi. C'est pas très malin.
Hein. Donc la fissure est bouchée au bout. Donc c'est pas bon.
Donc là, tu essaies de creuser la fissure
avec... Ouais, et d'enfoncer un piton pour faire un deuxième point, un relais, c'est-à-dire on le fait toujours sur deux points. Et là... Ah, c'est pas top.
Quand t'es encordé, putain, c'est pas évident de dire à l'autre, bon là, j'en peux plus, je vais mourir, toi aussi. Hein. Donc, mais non, je pense que le copain, ça sert vachement. Tu dis non, je peux pas mourir. Hors de question, je laisse le copain ou la copine, je sais pas qui. Donc ça t'aide à te calmer, à assumer finalement. Et finalement, tu finis par t'en sortir parce que merde, quoi. Mais c'est bon, tu ouvres des portes qui sont pas... qui sont un peu bizarres, hein, quand même.
Allez, les derniers mètres. On reste hyper concentré.
On est hyper concentré.
Wow. Putain, merci, Fanfan. Il avait dit que la vue était belle.
Ah ouais, quand même.
Ça le pète, hein.
Wow.
Ça le pète,
hop,
ça pète.
Hop, putain.
Mathieu, là.
Peine Méda. Penmeda, Pic du Gers, Hakim le Berbère, la moulade derrière qui dépasse. Là ?
Ça c'est magnifique.
Ouais, derrière, là. Hakim le Berbère, là.
Moi j'aurais plutôt dit que c'était là-bas le pic des Coutiettes.
Non, non, c'est celui-là. Là.
Tu
le crois? Premier, la face, ah oui, c'est le Penmeda, tu sais, qui est tout seul, et l'arrête, la taillante Pensarrière, là.
Ah ouais.
Qu'on
ça.
Voit, la moulade derrière qui dépasse.
Ah oui.
Rognon du Gers, regarde ce que vous avez fait, là, ta face, là.
Ah ouais.
Et l'Osso, le Jean-Pierre. Oh putain, c'est beau.
La sardine et le loup de mer. Petit manuel de survie en milieu hostile à l'usage d'un moussaillon. Un récit documentaire en 5 chapitres de Nicolas François. Prologue. Bruxelles, le 13 juillet 2014. Cher Jean-Philippe, votre proposition de découvrir la navigation à vos côtés m'intéresse beaucoup. Mathilde m'a souvent raconté vos périples à bord de votre petit voilier. Elle m'a dit que vous aimiez particulièrement la navigation dans la Manche. Depuis 3 mois, je suis des cours à Bruxelles, près du canal, mais c'est un peu loin de la mer. J'ai hâte de pouvoir mettre en pratique tout cela. En espérant vous rejoindre à bord prochainement, je vous souhaite un bel été. Bien à vous, Nicolas, marin d'eau douce bruxellois.
Bonjour Nicolas. Comme chaque année, je n'ai pas pris de vacances en juillet ni en août pour me tenir à l'écart du troupeau. Je suis parti avec Mathilde en juin, temps absolument dégueulasse. Froid, trop de vent. Nous n'avons pu naviguer que 3 jours et n'avons même pas dépassé Cherbourg. Je suis complètement dégoûté, j'ai perdu 3 semaines de vacances. Je commence à être démoralisé car ça fait plusieurs années que ça dure. Je vais ouvrir un site de prévision météo à long terme. Il suffit que je pose des vacances pour qu'il y ait un temps dégueulasse. C'est très simple et imparable. Pour la semaine prochaine, n'oubliez pas votre duvet et un gros pull. Je crains que nous en aurions bien besoin. À bientôt, Jean-Philippe.
Bonjour Jean-Philippe. Mon sac est prêt. J'ai quand même pris mes lunettes de soleil, au cas où. J'emporte aussi un livre qui retrace l'histoire des sauveteurs en mer dans la région de Calais. C'est un magnifique hommage à ces hommes et ces femmes, bénévoles, prêts à intervenir jour et nuit, par mer calme ou lorsque rugit la tempête. Un récit m'a particulièrement marqué. Une nuit de novembre, en plein milieu du détroit du Nord-Pas-de-Calais, deux voiliers belges furent pris dans une tempête effroyable. Il y avait des creux de plus de 4 mètres. Lorsque l'alerte fut lancée, tous les gens de mer aux alentours ont tenté l'impossible pour les secourir. Des sauveteurs, des hélicoptères français, belges et britanniques, mais aussi des ferries et des cargos ont affronté cette mer pendant plusieurs heures. La météo annonçait un vent de force 9. Les occupants du voilier devaient pourtant coûte que coûte rentrer à bon port. 2 personnes ont perdu la vie, fauchées par une vague gigantesque qui les a précipitées par-dessus bord. J'espère qu'on aura une météo plus clémente pour notre petit séjour. À très vite, Nicolas. Chapitre 1, où notre fameuse sardine rêve de grands espaces en s'installant dans une boîte.
Bon, ça va parce que le bateau est pas trop humide.
Vous avez beaucoup de cartes, Jean-Philippe ?
Ça en fait des cartes, oui, mais c'est parce que j'adore les cartes, pour ça. C'est mon petit plaisir, moi, les cartes. Alors, 604, 604, 604. 604, 602. 602, 602, 602.
Là, c'est ça qui est affiché dans mon salon.
Ah bah c'est bien, moi j'en ai aussi pas mal d'affiches chez moi. Ça me sert de décoration. Hop. Bon bah ça y est, j'ai à peu près rangé mes trucs.
C'est un endroit bien rangé.
Ah c'est un endroit bien rangé, mais ça c'est oui, oui relativement bien rangé. Mais si si, c'est très important ça. Il y a quelqu'un qui tombe à la flotte, si on ne sait pas où est l'échelle, et puis qu'on la cherche pendant un quart d'heure, le gars il a le temps de crever dans l'eau froide. C'est psychologiquement, pour moi, réconfortant de voir que le bateau, même quand on prend des paquets de merde dans tous les sens, qu'on est complètement secoué dans tous les sens, il est. C'est sous contrôle, quoi. Je supporte pas qu'il y ait quoi que ce soit qui traîne de tasses, de couverts, de machins, de trucs, de. Faut s'imaginer ce que c'est qu'un bateau quand il fait mauvais temps, c'est une machine à laver quoi. Donc bon, c'est assez vrai aussi que moi j'ai quand même le souvenir une fois d'une grosse cocotte minute que j'ai pris dans la gueule. Il y avait une cocotte minute qui était mal amarrée, mal arrimée pardon. Et puis un gros coup de gîte et moi je me la suis pris dans la tête quoi, la cocotte minute. Hein, donc ça fait mal, ça fait une bosse mais ça peut être plus grave quoi. D'où aussi évidemment l'impératif de ne faire cuire quand il fait mauvais temps que dans une cocotte minute fermée. Parce qu'il vaut mieux me prendre quelques minutes fermées, pleines dans la gueule, et même, y compris éventuellement chaude, que de la prendre ouverte et de s'ébouillanter. Ça, c'est le risque et le pépin majeur.
Dorsale atlantique sur le golfe de Gascogne, s'affaiblissant demain, pluie ou grains localement orageux sur l'ensemble du domaine. Les prévisions pour Pas-de-Calais antifère, ouest à nord-ouest 6, localement 7 au début, mollissant progressivement nord à nord-ouest 3 à 5 en cours de nuit, virant sud à sud-est demain soir avec des rafales, une mer agitée devenant peu agitée en fin de nuit.
Parfait.
Prochain bulletin sur les ondes moyennes de France Info et à 20h05 sur France Inter, grandes ondes bien sûr.
Très bonne condition.
Donc demain, prêt à partir à quelle heure?
Complètement pareil, je dirais 17h quoi. Donc ça veut dire que on passera évidemment la nuit en mer. Grosso modo, 19 à 20 heures de traversée. Tant qu'on pourra faire de la route, on fera de la route. Si ça marche bien, si le temps est truc, on peut pousser plus loin que Wemous. Sinon, le premier escale, c'est Wemous. On n'a pas de problème particulier, tout est paré, le bateau est prêt. Bon, parfait, quoi.
Donc la traversée, quoi.
Ah oui, de toute manière, la traversée directe. Oui.
On traverse la Manche.
On traverse la Manche, absolument. Oui, on traverse la Manche.
D'ailleurs, j'ai lu dans un livre là que la Manche était particulièrement difficile à traverser. En plus, c'est un capornier qui l'a raconté ça. Non ?
Effectivement, la navigation en Manche, elle est technique, elle est compliquée. Essentiellement à cause des courants, quoi, hein, qui sont importants. Il faut bien calculer ces traversées pour essayer d'être autant que possible avec le courant. Il y a aussi beaucoup de trafic, de remorqueurs, de cargos, de pétroliers, de choses comme ça. Bon, c'est quand même un des endroits les plus fréquentés du monde en matière de trafic maritime. Il y a donc une stratégie à avoir qui est vraiment très intéressante. On a des régimes météo assez compliqués parce qu'on est un peu à la lisière d'un régime anticyclonique qu'il y a souvent sur la France d'un côté, de l'autre côté des régimes dépressionnaires qu'il peut y avoir sur les îles britanniques. Donc on est souvent dans des zones de front avec une météo qui n'est pas toujours très, très clémente. Voilà, c'est ça à peu près.
Allez, bonne nuit.
Eh bien, bonne nuit.
Chapitre 2, où notre équipage, tout apprêté, réalise le sens du mot « anticiper ».
Merde ! Merde, 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 merde ! Hier, on pouvait tout juste. Quel con. C'est que t'es quasi plus faible de l'année, ça. Génial. Bah oui, c'est normal, hein. C'est en équinoxe, on est les plus fortes et les plus faibles.
Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'eau pour sortir du port.
Ouais, 1m80, on ne passe pas, ça c'est sûr. Bon. Ouais, bravo, bonne belle nouvelle. Putain, j'avais pas regardé ça. Voilà, bon.
Un café là.
Ah bah maintenant on a le temps. Hein. Bon, d'accord. Ouais.
Allez, c'est comme ça.
C'est comme ça. On n'est pas Dieu et on ne sait pas faire avancer la Lune d'un quart d'orbite. Hein. J'enregistrerai tout en plus, hein. Tout était enregistré, c'est terrifiant ça. Hein. Bon ben ça va, j'ai quand même gardé mon calme. Ça arrive,
3-4 jours par an, c'est comme ça, quoi, à peu près. Bon, on va faire autre chose, on verra bien, on a des tas de choses à faire, mais c'est légèrement frustrant, quoi. Mais c'est comme ça. Faut prendre les choses comme elles viennent, et puis faut rester tranquille, zen. Sachant que c'est les éléments quand même qui sont complètement maîtres de ce qu'on fait, faut prendre les choses avec philosophie, sinon faut faire autre chose, quoi. C'est pas, sinon c'est pas, faut être relativement souple et adaptable.
C'est vrai que c'est important ça, d'être relax par rapport à ça et de pas avoir envie de partir absolument tout de suite maintenant.
Effectivement, l'idée de vouloir partir absolument, alors soit on peut pas parce que on n'a pas d'eau là, donc problème réglé. Mais sinon, faut jamais oublier que c'est quand même quelque chose de toujours très dangereux, quoi. Je veux dire, il faut partir quand on est prêt, quand on se sent prêt, et pas quand il le faut pour des impératifs extérieurs. C'est le meilleur moyen d'aller à un incident, quoi. Parce que faut pas y avoir trop d'obligations extérieures. On en a déjà suffisamment liées à la météo, l'état de la mer, l'état du bateau, l'état de l'équipage, pour aller se prendre des risques avec des contraintes qui sont extra-navigation, du style avoir un rendez-vous de travail à la fin du week-end, ou un train à prendre, ou ça, non, faut pas faire, vaut mieux pas. Bon, j'en ai assez dit. Tu es content de moi ?
Ça me permet d'apprendre aussi à checker les coiffes.
Oui, oui, non, mais en fait, je le sais, moi, c'est ça, le truc, c'est que, oui. Bon, allez.
De la pipe.
Ouais, surtout quand il est couché. Alors je fais des bruits de glouglou, mais les glouglous c'est du goudron, et le goudron quand on le prend dans la bouche, c'est pas terrible. Mais bon, il est temps que j'arrête quand même. Ouais.
C'est une odeur agréable en tout cas, moi j'aime bien.
Oui, alors en plus quand on la fume, on la sent absolument pas l'odeur. C'est de la pure intoxication, quoi. Moi je fume des tabacs à la cerise souvent.
Et là, vous la sentez l'odeur de la cerise?
Ah non, non, quasiment pas. Non, non, on sent rien. De toute façon, c'est pas l'odeur, c'est le goût plus que l'odeur. On sent rien du tout. On sent que de la fumée, c'est dégueu.
Bon, sur ce, on va prendre l'apéro.
Voilà votre beau bateau.
Bah, tenez, on a pris avec nous un petit camembert.
C'est gentil
camembert
comme tout. Gosselin, c'est alors. Du coin. Ah bah bien oui, sûr. Bah, c'est génial. On va ouvrir une bouteille. Ah, on va se le faire. C'est sympathique. Merci beaucoup.
On vous dérange pas quand même. Voilà.
Elles font même partie de l'histoire.
Ça. Là, c'est vraiment cosy. Hein.
Ah oui. Bon, allez, on va s'ouvrir un petit coup rouge.
Et vous avez eu du beau temps pour venir du Havre?
Non.
Non, pas vraiment.
Non, c'était sportif.
Ah oui.
Ouais, c'était sportif. Hein. Ah, oui. Une part d'inconscience, de se lancer comme ça, sans rien y connaître. Uh-huh. Vu la météo, parce que ça s'est mis à... Il y avait des creux de 2 mètres. Alors, ça ne va pas faire beaucoup, mais quand ça arrive, ça arrivait par 3/4 arrière. Et le bateau est très très roulant,
oui.
Comme il est haut.
Oui,
et Francis qui m'accompagnait, ben, au bout d'une heure, il était accroché devant sur le pont, il dégueulait tribévoyé, donc j'étais seul là-haut. Je suis myope comme une taupe. Enfin, je voyais à peu près, puis on avait tracé un cap. Mais je n'arrivais pas à me repérer sur la côte pour savoir où on était. En plus, il y avait un bout de carte que je n'avais pas. Bon. Et en fait, en 6 heures, on était arrivé. Je suis arrivé devant Grand Camp qui était fermé.
Oui.
Et donc, il fallait attendre qu'ils ouvrent les portes.
Oui, bien sûr, ça m'est arrivé une fois ou deux.
Et donc, vraiment, le bateau, on est des très, très, très grosses gîtes. Je n'étais pas trop fier. Et